Mes élèves ont rencontré Rebecca Ligieri, alias Emmanuel Bayamak Tam, autrice d'Il est des hommes qui se perdront toujours, dans le cadre du prix littéraire de la région. Ce jour-là, j'étais malade. Mes élèves ont donc accueilli tout seuls Rebecca Ligieri. Ce que vous allez entendre est leur travail.
On va commencer par regarder une vidéo que les premières d'Option Cinéma ont filmée. Donc ça reprend l'incipit de votre roman et avec des images qu'on a tournées donc, récemment.
Qui a tué mon père ? À cette question, je crois pouvoir répondre « personne ». Non pas en raison d'un jeu de mots aussi retors que celui d'Ulysse, mais en vertu de ce que mon père lui-même a dû se dire, pour peu qu'il se soit senti mourir et qu'il ait vu en face son assassin.
Car si personne n'a tué mon père, il n'en demeure pas moins qu'il a été assassiné, et qu'il a connu une mort aussi violente qu'infamante, à deux pas de la cité où il avait passé l'essentiel de sa vie adulte, adossé à un tas de gravats dont émergeaient des bouts de ferraille difficiles à identifier.
Il a vu, en face, le visage de son assassin, car ce face-à-face faisait partie du contrat. Il fallait qu'il sache qui lui avait porté le coup fatal, qui avait jugé qu'il était indigne de vivre et qu'il l'avait sans doute toujours été. Car l'indignité ne datait pas d'hier, et mon père était en sursis. Simplement, il avait fallu attendre le début du nouveau millénaire pour que la sentence soit enfin exécutée. Les années 2000, mon père ne les verrait pas.
Qui a tué mon père ? Personne et beaucoup de gens. Ou plus exactement, beaucoup de gens auraient voulu tenir la pierre qui lui a fracassé le crâne, réduisant son occiput en bouillie, puis s'acharnant méthodiquement sur son visage, massacrant ce qui lui restait de beauté, ce qui n'avait pas été excavé par l'héros, jauni par la clope, bouffi par l'alcool. Beaucoup de gens auraient voulu tenir cette pierre, mais un seul l'a fait et son nom est personne.
Il y a quelques années, j'ai consulté un hypnothérapeute. Je voulais me débarrasser de mes propres addictions et j'avais entendu dire le plus grand bien de ce psychiatre et de ses pratiques. À la première séance, et passé un préambule assez classique, il m'a demandé de me représenter un vase, de lui décrire, puis de laisser les images venir à moi.
Dans ce cabinet cosy du cours Pierre Puget, qui sentait le lys et l'encaustique, je me sentais bien, détendue, presque heureuse. Le psy m'avait mis en condition et je flottais dans un état de conscience à peine amoindri. De l'autre côté de la fenêtre, les platanes étaient d'un vert tendre, et j'ai eu un instant l'espoir que tout pouvait s'arranger, que j'allais laisser le dur fardeau d'exister et repartir léger, comme à neuf, semblable au bourgeon duveteux des platanes.
Je vois plutôt une coupe qu'un vase. Un trophée sportif ? Non, mais c'est en métal en tout cas. Froid, dur. Je me demande si c'est pas plutôt une sorte d'urne funéraire. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y a des fleurs dedans. Enfin, pas exactement des fleurs. Des fleurs, mais dont on a coupé la tête. Il ne reste que les tiges. Trois. Trois fleurs décapitées. C'est bizarre. Pourquoi mettre des tiges dans un vase ?
Le rêve éveillé a continué à l'avenant. En face de moi, le psy prenait furieusement des notes, sans faire de commentaires. À la fin de la séance, il m'a seulement demandé si j'avais des frères et sœurs.
J'ai une sœur et un frère.
À ce moment-là, je les ai revus tous les deux, Hendrika et Mohand. Elle avec sa beauté stupéfiante, ses yeux clairs, ses dents du bonheur. Lui avec son visage étrange, sa lèvre couturée, sa tignasse d'un noir d'encre.
On est trois.
Oui, nous étions trois à avoir été décapités dès l'enfance. Trois à qui on avait refusé tout épanouissement et toute floraison. Trois à n'être rien ni personne.
Je suis assez émue même de me prendre ça là. Dès mon arrivée, c'est très beau.
Très beau, très fort, pardon. Et voilà, aussi bien les images que la musique. Merci beaucoup à ceux et celles qui sont partie prenante de cette vidéo parce que c'était vraiment très beau.
Alors, on a une première question un peu générale. C'est pourquoi vous avez décidé d'écrire en premier ?
Alors, j'ai commencé, comme tout le monde j'imagine, par lire. En fait, moi j'étais une enfant lectrice, une enfant monomaniaque, une enfant qui ne faisait que ça, lire, lire, lire. Et c'est vraiment parce que j'aimais lire à ce point que très vite finalement, dès que j'ai su écrire, donc c'est à peu près concomitant, que je me suis dit que je voulais en être, quoi. Je voulais faire partie de ces gens qui pouvaient voilà, induire chez les autres, chez les lecteurs, des états aussi intéressants et aussi extrêmes. Donc, aimant lire, j'ai très vite voulu écrire.
Et pourquoi vous avez décidé d'utiliser un nom d'emprunt ?
Rebecca Ligieri, effectivement, c'est mon pseudonyme. Alors, ça date de 2013 à peu près. J'avais envie d'écrire autrement. J'avais envie d'écrire des romans noirs. Donc des romans un peu plus sociaux, un peu plus sombres, un peu plus violents que ce que j'écrivais habituellement. Et le fait de prendre un pseudonyme et d'imaginer pendant un temps que personne ne ferait le lien entre moi et Rebecca Ligieri, ça m'a désinhibée, ça m'a permis d'écrire d'une façon plus libre. Et aujourd'hui d'ailleurs, cet effet désinhibant, il s'est étendu à tout ce que j'écris. Et je pense que ça a été une bonne idée de créer Rebecca, parce qu'elle me permet d'être, voilà, d'être plus libre dans ce que je peux faire. Mais au départ, c'était pour écrire autrement. Et je continue à alterner entre les deux modes d'écriture, hein, une écriture plus romanesque, sous mon pseudonyme, et une écriture plus poétique et plus satirique sous mon véritable nom.
Pourquoi continuez-vous d'enseigner ?
C'est vrai ça, après tout. Alors, je continue d'enseigner de moins en moins, hein, je tiens à le dire, je suis à mi-temps, j'ai essentiellement des BTS, et ça me fait un pied dans une réalité sociale en plus qui n'est pas du tout la mienne, puisque moi j'enseigne en banlieue, dans un lycée difficile, dans un quartier sensible. Et donc je pense que si je ne conservais pas ce pied dans cette réalité-là, je serais complètement déconnectée d'une partie de la France, hein, en réalité. Et par ailleurs, voilà, aussi rester en contact avec la jeunesse, moi mes enfants grandissent, ne vivent plus avec nous, ça me permet aussi de continuer à avoir à l'oreille la façon dont ils parlent, dont vous parlez. Et ça, ce sont des choses qui se périment très vite, et le fait d'avoir des élèves ou des étudiants, ça me permet d'entendre, voilà, d'entendre cette langue qui n'est pas la mienne. Enfin, qui n'est pas tout à fait la mienne.
Et du coup, pour en venir au livre, comment vous en êtes venu à imaginer ce livre et sa structure narrative ?
Alors, au départ d'un livre, il y a souvent plusieurs... Il y a tout un faisceau d'émotions, de réflexions, d'expériences vécues. Le point de départ de ce livre, bizarrement, c'est Michael Jackson, que j'aime, donc je suis assez inconditionnelle. Je sais que c'est un pédocriminel, mais il n'empêche, sa musique m'a construite, m'a bercée, et je l'aime encore énormément. Et il y avait cette réflexion, enfin, la façon dont je fantasmais peut-être un peu la vie, l'enfance de Michael Jackson, et en particulier le fait qu'il a été maltraité par son père, et que son père a très certainement considéré que ses enfants, c'était finalement une espèce de poule aux œufs d'or et qu'il allait capitaliser sur leurs talents. Il les a dressés comme de petits singes savants pour danser, chanter, etc. Et ça a très bien marché du reste. Et donc voilà, c'est cette idée que j'avais d'une enfance maltraitée, d'un père qui traîne ses enfants de casting en casting, qui m'a, entre autres, hein, donné envie d'écrire « Il est des hommes ». Après, il y a des tas de choses qui se superposent, hein, c'est toujours compliqué. Et je t'avoue ne plus me rappeler comment j'ai construit le scénario, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était là quasi dès le début. Enfin, je savais que ça allait s'ouvrir sur la mort du père, je savais qui avait tué le père, etc. Et ensuite, il y a des choses qui sont arrivées comme des surprises de chemin faisant, mais c'est un peu loin, là, je t'avoue que je ne sais plus trop. Ah, Antonin Artaud. Alors, c'est pas... Comment dire ? Bon, de toute façon, c'est plus facile, hein, d'inventer une cité que d'écrire sur une vraie cité. Enfin, quand on est dans la fiction, comme moi, ça évite les ennuis. Alors, c'est une cité à la fois fictive et en même temps inspirée de celle dans laquelle je vis moi depuis 13 ans. Sauf que celle dans laquelle je vis moi depuis 13 ans, elle est dans le Val-de-Marne. Elle n'est pas à Marseille. Et puis, par ailleurs, je suis marseillaise. Une de mes sœurs vit dans le 14e arrondissement, donc j'ai mixé la cité dans laquelle je vis, le quartier dans lequel elle vit, et ça a donné Antonin Artaud. Et par ailleurs, j'avais très envie de placer ce livre sous l'égide d'Antonin Artaud, qui est un auteur important pour moi, qui est un Marseillais. Et voilà, ça te donne plus de liberté, ça me donnait plus de liberté d'inventer la cité, en mélangeant des choses que j'ai pu voir, entendre, connaître, etc., que d'écrire sur une cité qui existe réellement. Du coup, je pouvais faire ce que je voulais en termes d'architecture, de comportement, etc. Ça me donnait plus de liberté.
Et donc pourquoi avoir choisi Antonin Artaud ?
Alors Antonin Artaud, parce que c'est un artiste, un auteur marseillais, même si les Marseillais, bizarrement, ne le connaissent pas et ne le revendiquent pas. Et c'est un auteur aussi, je ne sais pas si vous en avez déjà lu, Antonin Artaud, qui écrit des choses assez étranges, hein, entre poésie, théâtre, prose. Et c'est un auteur qui a des positions très radicales et très singulières, en particulier sur la consommation de drogue. C'est par exemple quelqu'un qui revendiquait qu'on le laisse tranquillement se perdre et utiliser et consommer sa drogue, qui était l'opium. Donc il a des positions que je trouve très singulières. Il a aussi un ton... il est toujours en colère, Artaud. Il écrit un peu sur le mode de la vitupération, de l'invective, et ça donne des choses très belles et très poétiques.
Pensez-vous que le monde où on est détermine notre avenir ?
Ah, quoi te dire ? J'aimerais te dire non. C'est pas simple. Il y a toujours des exceptions au déterminisme social, évidemment, heureusement. Mais évidemment aussi que ça joue, hein, et c'est un des fils conducteurs du livre que de montrer que. Évidemment qu'on n'a pas tous les mêmes chances et que naître dans une cité perdue du 14e arrondissement à Marseille, bah, ça te donne moins de chances de réussir professionnellement, par exemple, que si tu nais cours Pierre Puget, pour reprendre le premier chapitre de mon récit. Donc il y a des exceptions, bien sûr, il y a des façons de déjouer les déterminismes, mais évidemment que les dés sont un peu pipés dès le départ.
Pourquoi un narrateur masculin ? Comment avez-vous réussi à vous mettre aussi bien dans le corps, y compris désirant, d'un homme ?
Alors, moi, c'est pas du tout la première fois que je le fais. Hein. J'ai souvent des narrateurs masculins, de même que j'ai parfois des narrateurs qui sont noirs ou des narratrices qui sont noires, ou de même que j'ai des narratrices qui peuvent avoir 90 ans ou en avoir 6. Donc, ça, pour moi, ça n'est pas problématique, c'est même plutôt excitant et c'est une forme de défi que de rentrer dans le psychisme de quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Enfin, moi, j'ai choisi de ne pas raconter ma vie. Donc, nécessairement, je vais chercher des personnages qui peuvent sembler très loin de moi. Après, pour ce qui est des narrateurs masculins et en particulier de la sexualité masculine, d'une part, je pense qu'il y a des choses qui sont transposables. Je pense que ce n'est pas non plus fondamentalement différent d'être une femme et d'être un homme en la matière. Le désir, ça reste le désir. Et puis je me documente, hein, je fais comme tout le monde. J'ai des amis, je les sollicite, je leur pose des questions. Et ça m'intéresse, en fait, d'aller chercher, finalement, des raisonnements, des comportements, des réflexions, des agissements qui sont très éloignés des miens.
Quel est votre lien avec les maltraitances que vous racontez dans votre livre ?
Alors ça, c'est une question à laquelle je ne réponds jamais. Voilà. Désolée.
Et pourquoi vous vous êtes concentrée sur des histoires noires et très violentes ?
Oui, effectivement. Alors, Rebecca Ligieri, c'est le nom sous lequel j'écris des choses... peut-être plus sombre que ce que je fais sous mon nom d'Emmanuel Bayamaktam, mais dans l'ensemble quand même, je raconte pas des choses très gaies parce que j'ai l'impression, enfin, ce qui m'intéresse moi, c'est d'écrire avec ce que James Ellroy, qui est un romancier nord-américain, appelle ma part d'ombre. C'est-à-dire que j'écris en convoquant des angoisses, des phobies, des motifs d'indignation, des pulsions, de la violence, etc. Je n'écris pas avec la part la plus claire de moi, ça c'est sûr. Parce qu'il me semble intéressant de me confronter, moi, et de confronter mes lecteurs et mes lectrices, à effectivement tout ce qui peut effrayer, inquiéter, répugner. À te dire vraiment de façon très consciente et très théorique pourquoi c'est comme ça, ce serait compliqué. Mais de fait, ça ne m'intéresse pas d'écrire des livres de développement personnel ou des feel-good books. Ça, ni je n'en lis, ni je n'en écrirai jamais. Enfin, voilà. Donc, parce qu'il me semble que la fiction doit s'emparer précisément de ce qui est inquiétant, déstabilisant, dérangeant.
C'était la première partie de la rencontre de mes élèves avec Rebecca Ligieri, autrice d'Il est des hommes qui se perdront toujours, dans le cadre du prix littéraire de la région.